Chapitre 28. Le rêve du pompier. 9h29. Tenez, monsieur l'agent, ce sont les papiers de ma mère. Martial ouvre le portefeuille et tend la carte d'identité, la carte grise, l'assurance. Le flic sourit. La routine. Il a dû contrôler quelques centaines de voitures depuis ce matin. Il regarde à l'intérieur de la Nissan jaune. Sur le fauteuil passager, la vieille dort, son plaid sur les genoux et son écharpe autour du cou, comme si elle avait froid, même sous les 30 degrés. À l'arrière, le gamin fait la gueule, entre le hamac et les gamelles du pique-nique créole. Voilà maintenant que les oreilles s'y mettent. Le flic, consciencieux, malgré la lassitude, examine avec attention les papiers du véhicule.
« Vous avez les vôtres ?»
finit-il par demander à Martial. Martial baisse la tête d'un air désolé.
« Non. On monte juste mamie respirer dans les hauts, au frais. Vous voyez, si elle avait pu trouver un bonnet, je crois qu'elle l'aurait mis. »
Le flic s'esclaffe. Bon public. C'est un créole. Il compatit. Il tend les papiers à Martial.
« Moi, c'est pareil. J'y ai droit un week-end sur deux. Mais j'ai moins de chance que vous. Moi, j'ai encore mes 4 vieux à monter. »
Il scrute encore une fois l'arrière de la voiture. Le môme tire une gueule pas possible. On dirait même qu'il a chialé. Le flic cligne un œil compréhensif vers Martial.
« C'est surtout pour les petits que c'est le calvaire. Ils préfèrent le lagon, hein ? Comme les miens. Allez, bonne balade !»
Martial appuie avec calme sur l'accélérateur.
Il est passé.
Il roule d'abord doucement sur la route de Saint-Pierre jusqu'au trou d'eau. Le barrage a au moins l'avantage de filtrer la circulation. Il n'y a personne sur la route et il va pouvoir s'éloigner rapidement. Il longe l'océan avant d'arriver à Saint-Leu, franchissant successivement les embouchures des trois bassins, de la Grande Ravine et de la Ravine Fontaine, jetant un bref coup d'œil aux immenses ponts funambules de la route des Tamarins, 1 kilomètre à l'intérieur. L'équivalent de 3 viaducs de Millau en moins de 10 kilomètres. Le trafic sur la voie express est fluide. Trop fluide. Trop facile à repérer. Martial braque brusquement. Entre palmiers nains et cactus géants, le giratoire à l'entrée de Saint-Leu l'a surpris. Le cadavre de Chantal Letellier, malgré la ceinture de sécurité qui le harnache, glisse sur le fauteuil passager. Lentement, la tête exsangue se couche sur son bras. Martial frissonne. Sa main se crispe au volant, pétrifiée. Le contact de la peau flasque l'écœur, fait exploser en lui des souvenirs insupportables. Lorsqu'il prenait la voiture avec Liane, même pour les plus petites distances, elle s'endormait, immanquablement, au bout de quelques kilomètres, et sa douce chevelure blonde venait se poser sur son épaule. Dans la même position affectueuse que ce cadavre. Ce cadavre qui se remet à pisser le sang. Sa chemise est à nouveau trempée. Sofa pleure à l'arrière. À l'exception de quelques minutes au barrage, devant le flic, elle n'a pas cessé depuis le départ. Martial n'a pourtant pas d'autre choix que de continuer, de rouler, même s'il est conscient que le corps de cette vieille égorgée, maquillée en grand-mère fatiguée, assise à la place de sa mère, hantera sa fille. Toute sa vie. Pendant des années. Ou quelques heures. Qui peut savoir ? Lui ne maîtrise plus rien. 9h37. Martial sort de l'étang salé. Dans quelques kilomètres, après Saint-Louis, il va devoir choisir. Continuer à suivre l'océan ou tourner vers le cœur de l'île, direction le tampon. Sa décision dépend de questions dont il ne connaît pas la réponse. Combien de temps mettront les flics pour repérer la disparition de Chantal Letellier ? Pour identifier la voiture, pour que le gendarme qui l'a laissé passer fasse le rapprochement, pour qu'il lance un avis de recherche. Des minutes ? Des heures ? Il hésite. Pour rejoindre l'Anse des Cascades, la route du littoral est la plus courte. Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Philippe. Une enfilade presque continue de cases, de ronds-points, de passages piétons, de feux tricolores et de radars. C'est la route où il sera le plus vulnérable, une sorte d'entonnoir entre la montagne et la mer. Ce sera un jeu d'enfant pour les flics de le coincer dès qu'ils sauront par quelle route il est sorti de Saint-Gilles. La direction du tampon est indiquée sur la RN1. Tout droit. Instinctivement, il accélère. Il va suivre la route de l'entre-deux quelque temps jusqu'à la plaine des Cafres. Il existe ensuite au moins 3 itinéraires différents pour rejoindre la route du volcan qui serpente jusqu'au piton de la Fournaise. Un cul-de-sac, c'est son pari. Des centaines de touristes y montent chaque jour, photographient le piton, puis redescendent par le même chemin. S'il y a bien une route où les flics ne vont pas le chercher, c'est celle-ci. 9h42. La Nissan Micra enchaîne les premiers lacets de la route du volcan. Les champs d'herbe vertes et grasses, aux pentes mollement ondulées, sont clos par des poteaux de bois. Des vaches blancs et beiges tirent le cou au-dessus des barbelés pour mieux regarder passer les touristes. Les cases aux toits pointus prennent des allures de chalets bariolés. L'un des paysages les plus originaux de l'île. On peine à imaginer que, quelques dizaines de mètres plus bas, on vient de laisser les cocotiers, les cactus et la canicule. Martial jette un regard dans le rétroviseur. Sopha demeure toujours prostré à l'arrière.
Tu as vu, ma puce, comme le paysage change? On dirait la Suisse.
Silence. Sopha renifle. Martial repousse une nouvelle fois le corps de Chantal Le Tellier qui s'effondre sur lui à chaque lacet vers la droite. Le mannequin désarticulé s'est vidé de tout son sang. Il n'est plus qu'une sorte de fantôme pâle, presque transparent, dont la chair vire progressivement au bleu, de la même couleur que les cheveux teints. Un fantôme en train de pourrir. À chaque virage, le cadavre passe devant les yeux de Sopha. Elle ne dit rien, mais Martial la voit se mordre les lèvres, ses yeux se révulser. Traumatisé. Putain. Il devrait s'arrêter et balancer le cadavre au bord de la route. Ce serait la seule chose à faire pour que sa petite fille ne devienne pas complètement cinglée. Ou au moins se garer, porter le corps et le cacher dans le coffre. Ce serait laisser un indice trop important aux flics. Ou perdre un temps tout aussi précieux. Prendre un sacré risque. Risquer de tout gâcher. Impossible. Il doit aller au bout de sa folie. 9h45. Sopha grelotte maintenant. Chantal s'est calmée depuis quelques minutes. D'un mouvement d'épaule plus brusque, Martial l'a repoussée contre la portière passager. Sa bouche y est restée collée, comme si elle aussi admirait le paysage. Elle se contente de baver sur la vitre des glaires verdâtres striées de caillots de sang. Encore un lacet. Martial se souvient de la route. Elle est encore longue, une heure au moins, des dizaines de virages. Sopha ne tiendra pas le coup. Il doit prendre une initiative, n'importe laquelle. Une énorme boule se bloque dans sa gorge. Il tousse plusieurs fois, puis rompt le silence. Sopha, ma puce, tu m'as posé une question tout à l'heure. Tu m'as demandé si tu ressemblais à ton grand frère. Tu te souviens? Alex. Ton grand frère qui est mort avant que tu naisses. Regarde dans le rétroviseur. Aucune réaction perceptible chez la fillette. J'ai le temps de te répondre si tu veux. Oui, ma puce, tu lui ressembles. Tu ressembles beaucoup à ta maman, bien entendu, mais tu ressembles aussi beaucoup à Alex. Sopha a relevé la tête, les yeux vides, ailleurs. Je vais te faire une confidence, Sopha. C'est la deuxième fois que je prends cette route. La première fois, c'était il y a un peu plus de 10 ans, et Alex était assis exactement à ta place, à l'arrière. Il avait presque ton âge, juste 2 mois de moins. Nous étions seuls tous les deux dans la voiture. Je voulais lui montrer le volcan. Sopha l'écoute. Martial le devine. Il doit continuer de parler, pour que son esprit ne vagabonde plus vers les limbes de la démence. Le grand volcan de l'île, le piton de la Fournaise, une fois de plus, était entré en éruption. Dans ce cas, tous les journaux et toutes les télés de l'île expliquent qu'il ne faut surtout pas s'approcher du volcan. Et pourtant, tous les habitants de l'île font exactement l'inverse. Ils se précipitent pour profiter du spectacle.
le plus beau feu d'artifice qu'un homme puisse admirer.
La Nissan Micra jaune dépasse maintenant un kiosque à pique-nique tous les 200 mètres. Le dernier, juste en contrebas du sommet du nez de bœuf, disparaît dans un nuage de fumée de barbecue, flouté encore par la bave de Chantal Letellier qui dégouline sur le carreau.
Je voulais faire la surprise à Alex. Je ne lui avais rien dit, à sa mère non plus, bien entendu. Tu ne la connais pas, mais elle était sévère et sérieuse. Elle n'aurait jamais voulu. Elle m'aurait traité d'inconscient, tu penses bien. Emmener un enfant de 6 ans regarder une éruption volcanique alors que toutes les personnes censées de l'île tentent de l'interdire. Tu ne vas peut-être pas être d'accord avec moi, Sofa, mais il y a des choses que les mamans ne peuvent pas comprendre.
Rien. Pas un cil n'a bougé. Martial continue, même si Sofa s'est murée, a fermé à double tour la porte de son intimité, écoute sa propre musique à travers les écouteurs d'un MP3 imaginaire. Il raconte autant pour lui-même que pour sa fille désormais.
À l'époque, je lisais déjà à Alex les aventures de Tijan. Les mêmes livres qu'à toi. Tu le sais, grand-mère Cal et son ami Grand Diable habitent quelque part sous la lave du volcan. C'est pour cela qu'Alex avait un peu peur sur cette route. Tu n'as pas peur, toi, ma puce.
Martial peste intérieurement contre sa stupidité. Avait-il besoin d'ajouter cette histoire de diable à tout le reste? Il enchaîne rapidement pour ne pas laisser le silence triompher.
Je vais te raconter autre chose, Sofa. Depuis qu'il était tout petit, Alex avait un jouet préféré qu'il ne quittait jamais, un petit camion de pompiers qu'il avait trouvé sur la plage. Tu vois, Sofa, une petite voiture en métal qui tenait presque dans le creux de sa main. Pas très belle, un peu rouillée. Il la promenait partout. Il l'avait transformée en véhicule tout-terrain. Plis des draps dans son lit, bac à sable, herbe, gravier, chaise haute et rebord de table. Siège de voiture. Tu comprends, ma puce ? Alex n'avait que 6 ans, mais son petit camion de pompier avait déjà roulé des kilomètres. Lorsque nous sommes arrivés au pas de Bellecombe, là-haut, le parking au pied du volcan en furie, il était impossible d'aller plus loin. La route était bloquée. Tu sais ce qui a le plus fasciné Alex ?
Dans le rétroviseur, le visage de Sofa reste imperméable, mais sa main a bougé, comme si, à la description du jouet, elle aussi recherchait un ami quelconque, un doudou, une peluche, le moindre objet sur lequel elle pourrait projeter ses démons.
Tu ne vas pas me croire, Sofa. Ce ne sont pas les incroyables jets de flammes du Python qui ont intéressé Alex, ces étincelles qui explosaient dans le ciel noir comme du charbon. Non, ce sont les camions. Un alignement de camions de pompiers qui barraient la route et des dizaines de pompiers qui couraient partout, comme des martiens dans leur tenue d'amiante. Nous sommes vite sortis de la voiture. Il n'y avait aucun danger. Nous étions à plusieurs kilomètres du cratère, même si la chaleur était infernale. Nous n'étions pas les seuls. Il y avait déjà des centaines de gens autour de nous, avec des appareils photos, des caméras, des jumelles. Il était presque impossible de s'approcher de la barrière pour voir mieux. Une grosse dame a fini par laisser passer Alex. C'était une créole avec une énorme croix autour du cou. C'est le diable qui tousse, mon petit, a-t-elle dit à Alex. Il faut que tu te souviennes de cela. C'est le diable qui se fâche contre les hommes. Alex s'en fichait. Il regardait la lave couler le long du volcan comme un interminable serpent de feu. Tu peux me croire, Sofa. Jamais je n'avais vu ses yeux briller autant. Mais la vieille créole continuait avec ses histoires de bon Dieu. « Mon petit, tu sais comment il faut faire pour empêcher le diable de se mettre en colère ? Ton papa t'a pas dit ? Il faut prier, mon petit, prier tous les saints et les saintes de l'île. Le diable a peur d'eux. »
Martial marque un silence et jette un œil vers le sommet du piton de la Fournaise. Au-dessus du cratère Dolomieux, le ciel est immensément bleu, à l'exception d'une presque imperceptible brume de chaleur. Une vague idée se forme dans son esprit, le dessin flou d'une trappe au bout de cette impasse, étroite, mais suffisante peut-être pour s'y faufiler à deux. Pourquoi pas ? Il doit y réfléchir, y repenser. Plus tard, Il doit d'abord se concentrer sur son histoire, ne pas abandonner Sofa sur le chemin. Alex se fichait des seins, ma puce, au moins autant que toi qui n'es jamais entré dans une église. Mais il était poli, et la vieille dame continuait, comme si le bon Dieu sortait de sa bouche. « Je ne te mens pas, mon petit. Écoute-moi bien. Juste entre le volcan et la mer, il y a un petit village, Sainte-Rose, et une petite église appelée Notre-Dame. Lors de l'éruption en 1977, le volcan a tout recouvert, les champs de canne à sucre, les maisons, les routes. Tous les habitants du village se sont réfugiés dans l'église et ils ont prié les saints avant de mourir brûlés. Tu sais ce qui s'est passé alors, mon petit ?» Alex avait hoché la tête. Non, il ne savait pas. Il s'en fichait. Il regardait les pompiers s'approcher du cratère dans leur incroyable tenue de cosmonaute. La vieille dame, elle, ne s'arrêtait plus. « Eh bien, mon petit, les saints ont été plus forts que le diable. Le diable a eu peur. La lave s'est arrêtée juste devant l'église. Personne n'est mort. L'église s'appelle Notre-Dame-des-Laves depuis. » On peut encore voir la lave sécher, grimper jusqu'aux premières marches de la chapelle et s'arrêter là, comme si elle n'avait pas osé entrer. Si tu ne me crois pas, mon petit, tu pourras demander à ton père de t'emmener là-bas. Alex s'est retourné juste à ce moment-là et a demandé à la grosse dame. Pour arrêter la lave, est-ce qu'ils avaient un camion rouge, les saints? Tu vois la scène, Sofa? La grosse créole a été surprise. Elle a ri, un peu gênée. Non, mon petit, bien entendu, les saints n'ont pas de camion. Un casque brillant, alors ? A insisté Alex. Non. Une tenue de cosmonaute, alors ? Un grand fusil qui lance de l'eau ? Non. Non, mon petit, tu imagines un peu. Des saints habillés en cosmonaute avec une carabine ? Au loin, des hommes en uniforme s'affairaient comme si chaque seconde comptait, alors qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de surveiller la progression de la coulée de lave. Alex a haussé les épaules et tourné le dos à la créole. Alors c'est nul d'être un saint. Il a fixé le volcan et a serré fort son petit camion rouge dans sa paume. Moi, quand je serai grand, c'est pompier que je veux être. Nouveau regard dans le rétroviseur. Sofa n'a pas réagi. Ni rire, ni sourire. Chantal Le Tellier non plus. Elle semble avoir trouvé la position la plus confortable possible et s'être endormie. Un soubresaut a même fermé sa bouche. Martial insiste. Il le serait devenu, Sofa. Il faut me croire. À 6 ans, ton frère était déjà très courageux. Plus que cela même, intrépide, il serait devenu le plus fort des pompiers du monde. Dehors, les kiosques défilent, tous occupés par des familles créoles et déjà encombrés de gamelles de fer blanc, de chaises pliantes, de serviettes accrochées pour protéger les plus petits et les plus vieux du soleil à l'heure de la sieste. Le paysage s'ouvre sur le volcan. La mare de scorie, le piton textor, la pente zézée se diluent à leur tour à travers le pare-brise dans un flou humide. Les glaires de Chantal Le Tellier ne sont plus les seuls responsables. Martial ne retient plus les larmes qui pointaient au coin de ses yeux. Il profite d'une courte ligne droite pour se retourner vers Sofa. Elle pleure aussi. Il garde une main sur le volant et penche l'autre vers l'arrière de la voiture. Il sent les petits doigts de Sofa la rejoindre. 5 insectes fragiles qu'il capture avec une infinie délicatesse. C'est dommage qu'il soit mort si jeune, ton grand frère. Il aurait sauvé des vies, beaucoup de vies. Tu aurais été si fière de lui, ma puce. Les 5 insectes vibrent doucement dans sa main chaude, comme s'il leur poussait des ailes. Martial aimerait que cet instant dure une éternité. Au-dessus d'eux, un hélicoptère passe dans le ciel.